Eugène Sue, Kernok le pirate. Chapitre 1er. Le cacou et la sorcière. En exergue. Les écorcheurs et fileurs de chanvre cacou vivent séparés du reste des hommes. La présence d'un fou dans une maison défend ses habitants contre les maléfices des esprits malins. Conan Heck, chronique bretonne. Par une nuit de novembre, sombre et froide, le vent de nord-ouest sifflait avec violence et les longues lames de l'océan venaient se briser sur les bancs du granit qui couvrent la côte de Paimpol. Les pointes déchirées de ces rocs tantôt disparaissaient sous les vagues, tantôt se découpaient en noir sur une écume éblouissante. Placée entre deux rochers qui la protégeaient contre les efforts de l'ouragan, s'élevait une cabane de misérable apparence, mais ce qui rendait vraiment son abord horrible et infect, c'était une multitude d'eau, de cadavres de chevaux et de chiens, de peaux ensanglantées et d'autres débris qui annonçaient assez que le propriétaire de cette masure était cacou ou écorcheur. La porte s'ouvrit, puis parut une femme couverte d'une mante noire qui l'entourait entièrement, et ne laissait voir que sa figure jaune et ridée, presque cachée par des mèches de cheveux gris. Tenant une lampe de fer d'une main, de l'autre elle tâchait d'en abriter la flamme, qui tournoyait agitée par le vent. « Penouette ! Penouette ! » cria-t-elle avec un accent de colère et de reproche. « Où es-tu, maudit enfant ? Par Saint-Paul, mais ne sais-tu pas que voici l'heure où les chanteuses des nuits vont errer sur la grève ?» On n'entendit que le sifflement de la tempête qui redoublait de fureur. « Penouette ! » cria-t-elle encore. Penouette, enfin, prêta l'oreille. L'idiot était accroupi auprès d'un monceau d'ossements auquel lui donnaient les formes les plus variées et les plus bizarres. Il tourna la tête, se leva d'un air mécontent, comme un enfant qui abandonne ses jeux à regret, et regagna la cabane, non sans emporter une belle tête de cheval aux os blancs et polis, à laquelle il tenait beaucoup, surtout depuis qu'il y avait introduit des cailloux qui résonnaient de la plus agréable manière, quand Penouette secouait cet instrument de nouvelle espèce. « Mais rentre donc, maudit !» s'écria sa mère en le poussant avec tant de violence que sa tête heurta contre le mur. Le sang jaillit. Alors l'idiot se prit à rire aux éclats, d'un rire stupide et convulsif, essuya sa blessure avec ses longs cheveux noirs et fut se blottir sous le manteau d'une vaste cheminée. « Yvonne, Yvonne !» « Songe à ton âme, au lieu de répandre le sang de ton fils, » dit le cacou qui était à genoux et paraissait absorbé dans une profonde méditation. « N'entends-tu pas ?»« J'entends le bruit des vagues qui frappent ce rocher et le sifflement de la tempête. »« Mais dis plutôt la voix des trépassés. »« Par Saint-Jean du doigt. » C'est aujourd'hui le jour des morts, femme, et les naufrages que nous avons. Ici une pause. Pourrait bien venir traîner à notre porte le cariquet grand cou, avec ses draps blancs et des larmes rouges, répondit le cacou d'une voix basse et tremblante. Bah, que pouvez-vous craindre ? Penouette est idiot ? Ne sais-tu pas que les mauvais esprits n'approchent jamais du toit qui abrite un fou ? Jeanne et son feu qui tourne avec autant de rapidité que le dévidoir d'une vieille femme. Jeanne et son feu s'enfuiraient à la voix de Penouette comme une mouette devant le chasseur. Ainsi que crains-tu ? Alors pourquoi, depuis le dernier naufrage, tu sais, ce lougre qui échoua sur la côte, attiré par nos signaux trompeurs, pourquoi ai-je une fièvre ardente, des rêves affreux ? En vain, j'ai bu 3 fois, à l'heure de minuit, de l'eau de la fontaine de Kligoek. Et en vain, je me suis frotté de la graisse d'un goéland, Tu es à vendredi. Rien n'a pu me calmer. La nuit, j'ai peur. Ah, femme, femme, tu l'as voulu. Toujours craintif, mais ne fallait-il pas vivre? Ton état ne te rend-il pas à l'horreur de Toussaint-Paul? Et sans mes prédictions, en serions-nous réduits? L'entrée de l'église nous est défendue. C'est à peine si les boulangers veulent nous rendre du pain. Penouette ne va pas une fois à la ville qu'il ne revienne meurtri de coups, le pauvre idiot. Tiens, s'ils osaient, ils nous donneraient la chasse, confinés à une bande de loups des montagnes d'Arès. Et parce qu'en ramassant le goémon sur les rochers, nous profitons de ce que Théus nous envoie. Tu t'agenouilles comme un sacristain de Plougasnou. T'es aussi pâle qu'une fille qui, sortant de la veillée, rencontre le Théucer Pouliec avec ses trois têtes et son œil flamboyant. Femme, plus créatif qu'un homme de Cornouailles, dit enfin Yvonne exaspérée. Or, comme le plus sanglant outrage que l'on puisse faire à un Léonais est de le comparer à un habitant de Cornouailles, le cacou prit sa femme à la gorge. Oui, reprit-elle d'une voix rauque et strangulée, plus large qu'un enfant de la plaine. La rage du cacou ne connut plus de bornes. Alors il saisit une hache, mais Yvonne s'arma d'un couteau. L'idiot riait aux éclats en agitant sa tête de cheval remplie de cailloux qui rendait un bruit sourd et bizarre. Heureusement, on frappa à la porte de la cabane, car un malheur fut arrivé. Ouvrez, sacrebleu, ouvrez donc! Le nord-ouest souffle d'une force à décorner les bœufs, dit une voix rude. Le cacou laissa tomber sa hache. Yvonne rajusta sa coiffe en jetant sur son mari un regard encore étincelant de colère. Tu peux venir à 7 heures nous déranger, dit celui-ci. Puis il se hissa jusqu'à une fenêtre étroite et regarda. Chapitre 2. Kernoc. En exergue. Godkalet de Sanarborik. C'était un homme dur de l'Armorique. Proverbe breton. C'était lui, c'était Kernoc qui frappait à la porte. Voilà un digne et brave compagnon, jugez-en. Il naquit à Plougasnou. À 15 ans, il se sauva de chez son père, s'embarqua sur un négrier et là commença son éducation maritime. Il n'y avait pas à bord de mousse plus agile, de matelot plus intrépide, et nul n'avait le coup d'œil plus perçant pour découvrir au loin la terre voilée par la brume. Nul ne serrait un hunier avec plus de prestesse et de grâce. Et quel cœur! Un officier laissait-il négligemment errer sa bourse, le jeune Kernoc la ramassait avec soin, mais ses camarades avaient part au contenu. Volait-il du rhum au capitaine, il partageait encore scrupuleusement avec ses intimes. Et quelle âme! Combien de fois, lorsque les nègres que l'on transportait d'Afrique aux Antilles, engourdis par le froid humide et pénétrant de la cale, ne pouvaient se traîner jusque sur le pont pour humer l'air pendant le quart d'heure qu'on leur accordait à cet effet, combien de fois, dis-je, le jeune Kernoc ne rappela-t-il pas la moiteur et la transpiration sur leur peau glacée en hâtant leur marche à coups de corde? Et M. Durand, canonnier chirurgien charpentier du brick, remarquait judicieusement qu'aucun des Congos soumis à la surveillance de Kernoc n'était atteint de cette somnolence, de cette torpeur qui affectait les autres nègres. Au contraire, les siens, à la vue du menaçant bout de corde, étaient toujours dans un état d'agitation, d'irritabilité nerveuse, comme disait M. Durand, d'irritabilité nerveuse fort salutaire. Aussi, Kernok obtint-il bientôt l'estime et la confiance du capitaine Négrier, capable heureusement d'apprécier ses rares qualités. Ce bon capitaine affectionna le jeune matelot, lui donna quelques leçons de théorie et un beau jour le fit second du navire. Lui se montra digne de cet avancement rapide par son courage et son habileté. Il découvrit surtout une manière de caser les nègres dans le faupon tellement avantageuse que le brick, qui jusque-là n'en pouvait contenir que 200, put emporter 300 à la vérité en les serrant un peu et en les priant de se mettre sur le côté au lieu de se goberger sur le dos comme des pachas. Ainsi disait Kernok. De ce jour, le négrier prédit à son protégé la plus haute destinée. Et Dieu sait s'il accomplit cette prédiction. À quelques années de là, un soir qu'il cinglait vers la côte d'Afrique, le digne capitaine de Kernok, ayant bu un peu plus de tafia que de coutume, était de bonne et joviale humeur. Assis sur sa fenêtre, fumant sa longue pipe, il s'amusait à suivre la direction des épais tourbillons de fumée qui lançaient gravement, ou à regarder d'un œil fixe le sillage rapide du navire, hâtant de ses voeux le moment où il reverrait la France. Puis il pensait avec amour aux belles campagnes de la Normandie où il était né. Il croyait voir encore le chaumière doré par les derniers rayons du soleil, le ruisseau limpide et frais, le vieux pommier, et sa femme et sa mère et ses tout petits enfants qui attendaient son retour, soupirant après les beaux oiseaux dorés et les tissus aux vives couleurs qu'il leur apportait de ses courses lointaines. Il croyait voir tout cela, le pauvre homme. Sa pipe que le temps avait rendue noire comme l'aile d'un alcyon, sa pipe était tombée de sa bouche entrouverte. Il ne s'en était pas aperçu. Ses yeux se mouillaient de larmes. Son cœur battait avec violence. Et peu à peu, les efforts de son imagination tendus vers un même point, peut-être aussi l'influence du tafia, donnèrent à cette vision fantastique une apparence de réalité. Et le bon capitaine, avisant dans son ivresse que la pleine mer était cette riante prairie tant regrettée, eut la folle idée de vouloir aller s'y ébattre. Pour ce faire, il s'avança sur le bord de sa croisée et tomba à l'eau. D'autres disent qu'une main invisible poussa et que le sillage argenté du navire fut un moment rougi. Le fait est qu'il se noya. Comme le brick se trouvait près des îles du Cap-Vert, la houle était forte, la brise fraîche. Aussi le matelot du gouvernail n'entendit-il rien. Mais Kernok, qui était venu rendre compte de la route au capitaine, dut s'apercevoir le premier de l'accident auquel il n'était peut-être pas étranger. Kernok avait une de ses armes fortement trempée, inaccessible aux mesquines considérations que les hommes faibles appellent reconnaissance ou pitié. Or, il parut sur le pont sans qu'on pût remarquer en lui la plus légère émotion. Le capitaine s'est noyé, dit-il avec calme au contremaître, et c'est dommage, car c'était un brave. Ici, Kernok ajouta une épithète que nous nous abstenons de répéter parce que qui diminua d'une manière pittoresque l'oraison funèbre du défunt. Oh, Kernok était laconique. Puis, s'adressant au pilote, le commandement du navire m'appartient comme second du bord. Ainsi, tu vas changer de route. Au lieu de gouverner au sud-est, tu mettras le cap au nord-ouest, car nous allons virer de bord et gagner Nantes ou Saint-Malo. Le fait est que Kernok avait en vain tâché de dégoûter le défunt capitaine du trafic des nègres, non pas en philanthropie, non, mais par un motif bien plus puissant aux yeux d'un homme raisonnable. Capitaine, lui disait-il sans cesse, Vous faites des avances qui vous rapportent tout au plus 300%. À votre place, moi, maître, je gagnerais autant et même davantage sans débourser un sou. Votre brick marche comme une dorade. Armez-le en course. Je réponds de l'équipage. Laissez-moi faire et à chaque prise, vous entendrez la chanson du corsaire. Mais l'éloquence de Kernok n'avait jamais ébranlé la volonté du capitaine, car il savait parfaitement que ceux qui embrassaient cette noble profession finissaient tôt ou tard par se balancer au bout d'une vergue. Aussi l'inexorable capitaine était-il tombé à la mer par accident. À peine Kernok se vit-il maître du navire qu'il retourna à Nantes pour recruter un équipage convenable, armer son bâtiment et mettre à exécution son projet favori. Et voyez s'il n'y a pas une providence. À peine arrivé en France, il apprend que l'Angleterre nous a déclaré la guerre. Il obtient une lettre de marque, sort, donne la chasse à un trois-mâts marchand et rentre avec sa prise à Saint-Paul-de-Léon. Que dirais-je de plus? Le bonheur favorisa toujours Kernok, car le ciel est juste. Il fit maintes prises aux Anglais. L'argent qu'il en retirait s'écoulait rapidement dans les cavernes de Saint-Paul. C'est au moment de se remettre en mer pour battre monnaie, comme il disait dans son naïf langage, que nous le voyons arriver au sein de la respectable famille de l'écorcheur. Mais sacrebleu, ouvrez donc, répéta-t-il en secouant vigoureusement la porte. Vous restez tapis comme des goélands dans le creux d'un rocher. On ouvrit. Chapitre 3. La bonne aventure. En exergue, la sorcière dit au pirate: Bon capitaine, en vérité, non, je ne serai pas ingrate et vous aurez votre beauté. Victor Hugo, Cromwell. Il entra, se dépouilla d'une capote de toile cirée qui ruisselait de pluie, l'étendit près du foyer, secoua son large chapeau de cuir verni et se jeta sur un méchant escabeau. Kernok pouvait avoir 30 ans. Sa taille large et carrée, qui promettait une vigueur athlétique, ses traits basanés, sa chevelure noire, ses larges favoris lui donnaient un air dur et sauvage. Pourtant, sa figure eût passé pour assez belle, sans la mobilité extraordinaire de ses épais sourcils qui se joignaient ou se séparaient suivant l'impression du moment. Son costume ne le distinguait en rien d'un simple matelot. Seulement 2 ancres d'or étaient brodées sur le collet de sa veste grossière, et un large poignard recourbé pendait à sa ceinture par un cordon de soie rouge. Les habitants de la cabane examinaient l'étranger avec une expression de crainte et de soupçon, et attendaient patiemment que ce singulier personnage fit connaître le but de sa visite. Mais lui ne paraissait occupé que d'une chose, de se réchauffer. Aussi jeta-t-il sans façon dans le foyer quelques morceaux de bois encore garnis de fer. Chien! Dit-il entre ses dents. Oh, ce sont les débris d'un navire qu'ils auront attiré et fait échouer sur la côte. Oh, si jamais l'épervier! Que voulez-vous? Dit Yvonne, lasse du silence de l'inconnu. Celui-ci leva la tête, sourit dédaigneusement, ne dit mot, allongea ses jambes le long du feu, et après s'être établi le mieux possible, c'est-à-dire le dos appuyé contre la muraille et les pieds sur les chenets, Vous êtes peinable, cacou, n'est-il pas vrai, mon brave? Dit enfin Kernok, qui, à l'aide de son bâton ferré, tisonnait avec autant d'aisance que s'il eût été au coin de la cheminée d'une excellente auberge de Saint-Paul. Et vous, la sorcière de la côte de Bemboul? Ajouta-t-il en regardant Yvonne d'un air interrogatif. Puis toisant l'idiot avec dégoût. Et quant à ce monstre, si vous le menez au sabbat, il doit faire peur à Satan lui-même. Mais reste, il vous ressemble, ma vieille, et si je mettais cette figure-là sur l'avant de mon brick, les bandits effrayés ne viendraient plus se jouer et bondir sous la proue. Ici, Yvonne fit une grimace colérique. Allons, allons, belle hôtesse, calmez-vous, et n'ouvrez pas le bec comme un goéland qui va fondre sur un banc de sardines. Voilà qui vous apaisera, dit Kernok en faisant sonner quelques écus. Car j'ai besoin de vous et de monsieur. Cette harangue et ce mot monsieur furent prononcés surtout avec un air si évidemment narquois qu'il fallut et la vue d'une longue bourse de peau honnêtement garnie et le respect qu'inspiraient les larges épaules et le bâton ferré de Kernok pour empêcher le digne couple de faire éclater une colère trop longtemps comprimée. « Oh, ce n'est pas, ajouta le corsaire, que je crois à vos sorcelleries, Loulon. Autrefois, dans mon enfance, à la bonne heure, comme un autre, je frissonnais à la veillée en entendant ces beaux récits. Et maintenant, belle hôtesse, j'en fais autant de coques d'un aviron brisé. Mais elle a voulu que je vinsse me faire dire la bonne aventure avant de me remettre en mer. Enfin, voyons, allons-nous commencer. Êtes-vous prête, madame ?» Ce madame fit encore horriblement grimacer Yvonne. « Oh, je ne reste pas ici !» s'écria le cacou, pâle et tremblant. « C'est aujourd'hui le jour des morts. Femme, femme, tu nous perdras, le feu du ciel écrasera cette demeure. » Il sortit et ferma la porte avec violence. « Quel diable mort !»« Mais cours donc après lui, vieille chouette, il connaît la côte mieux qu'un pilote de l'île de Basse. J'en aurai besoin, allez, va donc, sorcière maudite !» Se disant, Kernok la poussait vers la porte. Mais Yvonne reprit en se dégageant des mains du pirate. « Viens-tu pour insulter ceux qui te servent? Cesse, cesse, ou tu n'en seras rien de moi. » Kernok haussa les épaules d'un air d'insouciance et d'incrédulité. « Mais enfin, que veux-tu? Savoir le passé et l'avenir, rien que ça, ma digne mère. Ce qui est aussi possible que de filer dix nœuds, le vent debout, répondit Kernok en jouant avec les cordons de son poignard.
Ta main?
La voilà. Et j'ose le dire, pas une ne sait mieux nouer une garcette ou presser la détente d'un pierrier. C'est donc là que tu lis ton grimoire, vieille fée? Bah, j'y crois autant qu'aux prédictions de notre pilote, qui, en brûlant du sel et de la poudre à canon, s'imagine reconnaître le temps qu'il doit faire à la couleur de la flamme. Sottise que tout cela. Je ne crois, moi, qu'à la lame de mon poignard ou à la mort de mon pistolet, et quand je dis à mon ennemi « Tu mourras », le fer ou le plomb accomplissent mieux ma prédiction que toutes les...
« Silence !» dit Yvonne.
Pendant que Kernok exprimait aussi librement son scepticisme, elle avait étudié les lignes qui se croisaient dans sa main. Alors elle fixa sur lui ses yeux gris et perçants, puis approcha son doigt décharné du front de Kernok. Il tressaillit en sentant l'ongle de la sorcière se promener sur les rides qui se dessinaient entre ses sourcils. « Hola !» dit-elle avec un sourire hideux. « Hola ! Toi, si fort, tu trembles déjà ?»«
Je tremble, je tremble. Si tu crois qu'il est possible de sentir sans dégoût ta griffe s'approcher de ma peau, tu te trompes fort. Mais vienne, au lieu de ton cuir noir et tanné, une main douce et potelée. Tu verras que Kernok, Et il balbutiait, baissant involontairement les yeux devant le regard fixe et arrêté de la sorcière.
« Silence !» dit-elle encore,
et sa tête retomba sur sa poitrine. On lui dit absorbé dans une profonde rêverie. Seulement, elle était agitée par intervalles d'une espèce de tremblement convulsif et l'on entendait ses dents s'entrechoquer. La lueur vacillante du foyer qui s'éteignait éclairait seule de sa clarté rougeâtre l'intérieur de cette masure et reflétait de la sorte la tête difforme de l'idiot qui sommeillait tapis dans un coin devenait réellement effrayante. On ne voyait d'Yvonne que sa mante noire et ses longs cheveux gris. La tempête mugissait au dehors. Il y avait je ne sais quoi d'horrible et d'infernal dans cette scène. Kernok lui-même, éprouva un léger frisson qui le parcourut, rapide comme l'étincelle électrique. Et sentant peu à peu se réveiller en lui son ancienne superstition d'enfant, il perdit cet air d'incrédulité moqueuse dont ses traits s'étaient empreints en entrant. Bientôt une sueur froide mouilla son front. Machinalement, il saisit son poignard et le tira du fourreau. Comme ces gens qui, à moitié éveillés, croient sortir d'un songe pénible en faisant quelques mouvements violents. Mais que l'enfer étouffe, Mélie! S'écria Kernok. C'est Soko, ça y est, moi aussi. Moi, c'est bus pour les suivre. Me laisserai-je intimider par des momeries bonnes à effrayer des femmes et des enfants? Non, sacrebleu, il sera pas dit Kernok. Oh là, les fiancés du démon, parle vite, il faut que je parte. M'entends-tu? Et il la secoua fortement. Yvonne ne répondait pas. Son corps suivait les impulsions que lui donnait Kernok. On ne sentait même pas la résistance que fait éprouver un être animé. On eût dit d'une morte. Le cœur du pirate battait avec violence. « Parleras-tu » murmura-t-il. Et il releva violemment la tête d'Yvonne, qui était baissée, appuyée sur sa poitrine. Elle resta relevée. Mais son œil était fixe et terne. Les cheveux de Kernok lui dressaient sur sa tête. Ses deux mains en avant, le cou tendu comme fasciné par ce regard pâle et morne, il écoutait, respirant à peine, dominé par une puissance au-dessus de ses forces. « Kernok !» dit enfin la sorcière d'une voix faible et saccadée. « Jette ce poignard !» Et elle montrait le poignard qui tremblait dans la main de Kernok. « Jette-le, te dis-je. Il y a du sang d'elle et de lui. » Et la vieille sourit d'une manière affreuse, puis mettant le doigt sur son col. « Là, tu l'as frappée, et pourtant elle vit encore, mais c'est pas tout. Et le capitaine du négrier ?» Le poignard tomba au pied de Kernok. Il passa la main sur son front brûlant et serra si violemment ses deux tempes que la trace de ses ongles y resta empreinte. Il se soutenait à peine et s'appuya sur le mur de la cabane. Yvonne continua. « Que tu aies jeté ton bienfaiteur à la mer après l'avoir poignardé, c'est bien ton ami Ratus. Mais que tu aies frappé Mélie sans la tuer, c'est mal. » Car pour te suivre, elle a quitté ce beau pays où croissent les poisons les plus subtils, où les serpents jouent et s'élancent au clair de lune en confondant leurs sifflements, où le voyageur entend en pâlissant le râlement de la hyène qui crie comme une femme qu'on égorge. Ce beau pays où les vipères rouges font les morsures qui tuent, qui portent dans les veines un venin qui les corrode. Et Yvonne tordait ses bras comme si elle eût ressenti ses affreuses convulsions. « Mais assez, assez !» dit Kernok qui sentait sa langue se glacer. « Tu as porté le fer sur ton bienfaiteur et sur ta maîtresse.
Leur sang retombera sur toi, ton terme approche. Penouette, cria-t-elle à voix basse. À cette voix sourde et creuse, Penouette, qu'on eût cru endormie profondément, se leva dans une espèce d'accès de somnambulisme et se mit aux genoux de sa mère qui prit ses mains dans les siennes et appuyant son front contre son front, « Penouette, il demande ce que Teus lui rapporte à vivre. Au nom de Teus, réponds-moi. » L'idiot poussa un cri sauvage, parut réfléchir un instant, recula d'un pas et frappa le sol avec la tête de cheval qui ne le quittait plus. Il frappa d'abord 5 fois, puis encore 5 fois. 5, 10, 13, dit sa mère qui comptait à mesure. 13 jours encore à vivre, tu entends? Et puisse Teus t'envoyer sur notre côte, le corps livide et froid, entouré de longues herbes marines, les yeux ternes et ouverts, l'écume à la bouche et ta langue mordue entre tes dents. 13 jours, et ton âme à Teus. Mais elle, dit Kernok, haletant dans un délire affreux. Elle, reprit Yvonne, mais tu ne m'as pas payé que pour toi. Bah, je serai généreuse. Puis elle réfléchit un moment en posant son doigt sur son front. Eh bien, elle aussi, elle aura les membres roidis, le visage bleu, la bouche écumante et les dents serrées. Oh, vous ferez de beaux fiancés, et plein à Teus que je vous vois par une nuit de novembre accrochée sur un rocher noir qui sera votre lit nuptial avec les lames de l'océan pour rideau, le cri des taraques et des corbeaux pour chant de noces, et l'œil ardent de Teus pour flambeau. Kernok tomba évanoui, et 2 éclats de rire singuliers retentirent dans la cabane. On frappa à la porte. « Kernok, mon Kernok !» dit une voix douce et fraîche. Ces mots firent sur Kernok un effet magique. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui avec étonnement et effroi. « Mais où suis-je donc ? » dit-il en se levant. « Est-ce un rêve affreux ? Mais non, mon poignard, cette cape, il est trop vrai, enfer !» Maudite vieille, je saurai! La vieille et l'idiot avaient disparu. Kernok, mon Kernok, ouvrez donc! Répéta la douce voix. Elle? S'écria-t-il, elle ici? Et il se précipita vers la porte. Viens, dit-il, viens! Et sortant de la cabane, la tête nue, l'air égaré, il l'entraîna rapidement. En gravissant les rochers qui bordent la côte, ils atteignirent bientôt la route de Saint-Paul. Chapitre 4. Le brick, l'épervier. En exergue. Fameux bâtiment, allez, depuis les tambours jusqu'au hunier. Il n'en est pas dans l'arsenal qui puisse marcher son égal. Vent debout, il file au mieux, dîneux. Chanson de matelot. Le brouillard, qui voilait les environs du petit port de Pemboul, se dissipait peu à peu et le disque du soleil paraissait d'un rouge foncé au milieu de ce ciel gris et terne. Bientôt, Saint-Paul, dominé par ses grands bâtiments noirs et ses clochers de pierre, apparut vague et incertain à travers la vapeur qui s'élevait des eaux, puis se dessina d'une manière plus arrêtée quand les pâles rayons du soleil de novembre eurent chassé l'air épais et humide du matin. À droite s'élevait l'île de Callao et ses brisants, le moulin et le clocher bleu de Plougasnou, tandis qu'au loin se déroulait la côte de Tréguier, au sable fin et doré, terminée par les immenses rochers qui se perdent à l'horizon. Le joli bassin de Pempoul ne contenait ordinairement une 60aine de barques et quelques navires d'un tonnage plus élevé.
Aussi le beau brick l'épervier dépassait-il de toute la hauteur de ses huniers cette ignoble foule de lougres, de sloops, de chausses marées qui étaient mouillées autour de lui. Vrai, c'est un beau brick, le brick l'épervier. Peut-on se lasser de le voir droit et ras sur l'eau avec ses formes étroites et élancées, sa haute mâture un peu penchée sur la mer qui lui donne un « ah ah » si coquet et si marin. Comment ne pas admirer ce gréement fin et léger, ses larges basses voiles, ses huniers, ses perroquets si élégamment échancrés, et ses bonnettes qui se déploient sur ses flancs, gracieuses comme les ailes d'un cygne, et ses focs élégants qui semblent voltiger au bout de son beau pré, et sa ligne de 20 caronades de bronze qui se dessine noire et blanche comme les bandes d'un damier. Et puis, jamais la vapeur odorante de la myrrhe brûlant dans les cassolettes d'or, jamais la violette avec ses feuilles veloutées, jamais la rose et le jasmin distillés dans de précieux flacons de cristal n'approcheront du délicieux parfum qui s'exhalait de la cale de l'épervier. Quel odorant goudron, quel suave bitume! Vrai Dieu, mordieu, c'est un beau brick, le brick l'épervier. Et puisque vous l'admirez endormi sur ses ancres, que diriez-vous donc si vous le voyez donnant la chasse à quelque malheureux trois-mâts marchand? Non, jamais cheval de course écumant sous le frein n'a bondi avec autant d'impatience que l'épervier lorsque le pilote venait au vent au lieu de laisser porter sur le navire poursuivi. Jamais l'Alcyon, rasant l'eau du bout de son aile, n'a volé avec autant de rapidité que ce beau brick, lorsque, par une forte brise, ses huniers et ses perroquets, il glissait sur l'océan, tellement penché que le bout dehors de ses vagues vergues éplorait le sommet des vagues. Vrai Dieu, mordieu, cordieu, c'est un brave brick que le brick l'épervier. Et c'est lui que vous voyez là, tout noir et farouché sur ses deux câbles. À bord, où il restait peu de monde, le maître d'équipage, six matelots et un mousse, rien de plus. Les matelots étaient groupés dans les haubans ou assis sur l'affût des caronades. Le maître d'équipage, homme d'environ 50 ans, enveloppé dans un grand caban oriental, se promenait sur le pont d'un air agité, et la protubérance que l'on remarquait sous sa joue gauche annonçait par son excessive mobilité qu'il mordait sa chique avec fureur. Or, le mousse, qui, immobile auprès du maître, son bonnet à la main, paraissait attendre un ordre, remarquait ce fâcheux pronostic avec un effroi toujours croissant. Car la chique du maître était pour l'équipage une espèce de thermomètre qui annonçait les variations de son caractère. Et ce jour-là, suivant les observations intérieures du mousse, le temps avait l'air de se mettre à l'orage. « 1 000 000 000 de tonnerres !» disait le maître en enfonçant son capuchon sur ses yeux. « Quel infernal vent l'a poussé ! Où est-il ? 10 heures et pas encore revenu à bord. Et sa bête de femme qui part au milieu de la nuit pour aller le rejoindre, le diable sait tout. Oh, une si belle brise ! Perdre une si belle brise, répétait-il d'un ton déchirant en regardant un léger plumet attaché au hauban, qui par la direction que lui donnait le vent annonçait une forte brise du nord-ouest. Il faut être aussi fou qu'un homme qui se met le doigt entre le câble et l'écubier. Le mousse, impatienté de la longueur de ce monologue, avait déjà essayé 2 fois d'interrompre le maître d'équipage. Mais le coup d'œil furieux et la mobilité excessive de la chique de son supérieur l'en avaient empêché. Enfin, faisant un effort sur lui-même,
son bonnet sous le bras, le cou tendu, la jambe gauche en avant, il se hasarda à tirer le maître par un pan de sa houppelande. « Maître Zélie, lui dit-il, le déjeuner vous attend. »«
Ah, c'est toi, Grenzel. Que fais-tu là, gredin, buse, animal, radical? Veux-tu que je te fasse tanner le cuir, que je te rende les chines aussi rouges qu'un rosbif cru? Répondras-tu, mousse de malheur? »
À ce tort d'injures, de menaces, le mousse ne posait qu'un calme stoïque, habitué qu'il était aux boutades de son supérieur. Et, soit dit en passant, vous saurez que, si je croyais à la bêtante psychose, j'aimerais mieux revenir pour toute ma vie dans le corps d'un cheval de fiacre, d'un surnuméraire, d'un âne de Montmorency, d'animer enfin ce qu'il y a de plus misérable, plutôt que de séjourner une seconde dans la peau d'un mousse. Nous l'avons dit, le mousse ne soufflait mot. Et lorsque maître Zélie s'arrêta pour reprendre haleine, Grain de sel hasarda, avec un air plus humble que de coutume, « Le déjeuner, vous !»«
Oh, le déjeuner !» s'écria le maître, enchanté de faire tomber sa fureur sur quelqu'un. « Oh, le déjeuner !»« Tiens, chien !»
Ceci fut accompagné d'un soufflet et d'un coup de pied si violent que le mousse, qui était en haut de l'escalier du faux pont, disparut comme par enchantement et arriva au fond de la cale en glissant avec rapidité le long des marches de l'échelle. Arrivé là, le mousse se releva et dit en se frottant les reins.
« Oh, j'en étais sûr, je l'avais vu à sa chic, il a de l'humeur. »
Et après un moment de silence, Grain de sel ajouta d'un air fort satisfait.
« Bon, le mieux ça que d'être tombé sur la tête. »
Puis, consolé par cette réflexion philosophique, il fut fidèlement veillé au déjeuner de maître Zélie. Chapitre 5. Retour. En exergue.
« Holà, d'où venez-vous, beau sire, la tête nue, la ceinture pendante? Quelle pâleur, tu Dieu l'ami! Quelle pâleur!
Wadsworth. » Quoiqu'il eût un peu épanché sa colère sur Grain de sel, maître Zélie arpentait toujours le pont en levant de temps en temps le poing et les yeux au ciel et murmurait quelques paroles qu'il était impossible de prendre pour une pieuse invocation. Tout à coup, fixant un regard attentif sur la jetée du port, il s'arrêta, saisit une longue vue attachée près des habitacles, et l'approchant de son œil,
« Enfin, enfin, c'est heureux !» s'écria-t-il. « Le voici !»« Oh oui, c'est bien lui !»« Quel coup d'aviron, comme il nage !»« Allons, ferme, bravo, mes garçons !»« Doublez, doublez, nous pourrons profiter de la brise et de la marée !»
Et maître Zélie, oubliant qu'il était difficile de l'entendre à deux portées de canon, encourageait de la voix et du geste les matelots qui ramenaient à bord Kernock et son compagnon. Enfin l'embarcation qu'il montait atteignit le brick et aborda à tribord. Maître Zélie courut à l'échelle donner le coup de sifflet qui annonçait la présence du capitaine et, son chapeau à la main, se disposa à le recevoir. Kernock monta avec agilité le long du brick et sauta sur le pont. Le maître fut frappé de sa pâleur et de l'altération de ses traits. Sa tête nue, ses habits en désordre, la gaine sans poignard qui pendait à sa ceinture, tout annonçait un événement extraordinaire. Aussi Zélie n'eut-il pas le courage de reprocher à son capitaine une absence trop prolongée, et c'est avec un air d'intérêt respectueux qu'il s'approcha de lui. Kernock embrassa le brick d'un regard rapide et vit à l'instant si tout était en ordre. « Maître, dit-il à Zélie d'une voix impérieuse et dure, à quelle heure est le flot ?»«
À 2 heures et quart, capitaine. » Eh bien, si la brise ne mollit pas, nous appareillerons à 2 heures et demie. Faites hisser le pavillon et tirez le coup de canon de partance. Virez au cabestan, désafourchez, quand les ancres seront à pic, vous me préviendrez. Où est le lieutenant, le reste de l'équipage?
À terre, capitaine.
Envoyez les embarcations les chercher. Celui qui ne sera pas à bord à 2 heures aura 20 coups de corde et 8 jours de fer sur un parc à boulets. Allez!
Jamais Élie n'avait vu à Carnoc un air si rude et si sévère. Aussi, contre son habitude, il ne fit pas une foule d'objections à chaque ordre de son capitaine et se contenta d'aller promptement les exécuter. Carnoc, après avoir considéré d'un œil attentif la direction du vent et des boussoles, fit un signe à son compagnon et descendit dans sa chambre. C'est ce compagnon qui vint le chercher dans l'antre de la sorcière. La voix pure et fraîche qui disait « Carnoc, mon Carnoc !» c'était la sienne. Mais comment n'a-t-il pas été douce, sa voix? Il était si joli, avec ses traits délicats et fins, son grand œil voilé par de longs cils, ses cheveux châtains et soyeux qui s'échappaient de larges bords d'un chapeau verni, et cette taille souple et élancée que dessinait une veste de gros drap bleu, et cette tournure vive et alerte. Comme il marchait libre et dégagé, le col dressé, la tête haute. Ah, que salero! Seulement, sa figure paraissait dorée par un rayon de soleil des tropiques. C'est aussi de ce climat brûlant que Carnoc avait ramené ce gentil compagnon, qui n'était autre que Mélie, belle jeune fille de couleur. Pauvre Mélie! Pour suivre son amant, elle avait quitté la Martinique et ses bananiers, et la savane et sa case aux jalousies vertes. Pour lui, elle lui donnait son hamac aux 1000 couleurs, ses madras rouges et bleus, les cercles d'argent, massif qui entourait ses jambes et ses bras. Elle eut tout donné, tout, jusqu'au sachet qui renfermait 3 dents de serpent et un cœur de ramier, charge magique qui devait protéger ses jours tant qu'elle le porterait suspendu à son col. Ainsi, voyez si Mélie aimait son Carnoc. Il l'aimait aussi, lui, oh, il l'aimait avec passion, car il avait baptisé du nom de Mélie une longue couleuvrine de 18 placée sur le gaillard d'avant de son brick, et il n'envoyait pas un boulet à l'ennemi qui ne se souvînt de sa maîtresse. Il fallait bien qu'il l'aimât, puisqu'il lui permettait de toucher à son excellent poignard de Tolède et à ses bons pistolets anglais. Que dirais-je de plus? C'est à elle qu'il confiait la garde de sa provision particulière de vin et d'eau de vie. Mais ce qui prouvait plus que tout l'amour de Carnoc, c'était une large et profonde cicatrice que Mélie portait au col. Cela provenait d'un coup de couteau que le pirate lui avait donné dans un mouvement de jalousie. Or, comme il faut toujours juger de la force de l'amour par la violence de la jalousie, on voit que Mélie devait passer les jours filés d'or et de soie auprès de son doux maître. Elle descendit avec lui. En entrant dans sa chambre, Carnoc se jeta sur un fauteuil et cacha sa tête dans ses mains comme pour échapper à une vision funeste. Il avait surtout frémi en apercevant la fenêtre par laquelle son défunt capitaine était tombé à la mer. Comme chacun sait, Mélie le considérait avec douleur. Puis elle s'approcha timidement, s'agenouilla en prenant une de ses mains qui lui abandonna. Carnoc, qu'avez-vous? Votre main est brûlante. Cette voix le fit tressaillir. Il leva la tête, sourit amèrement, et jetant son bras autour du cou de la jeune mulâtresse,
il la pressa contre lui. Sa bouche effleurait sa joue lorsque ses lèvres rencontrèrent la fatale cicatrice. Enfer, malédiction sur moi! S'écria-t-il avec violence. Maudite vieille sorcière infernale, où a-t-elle appris? Et il fut pour respirer à la croisée. Mais comme repoussé par une force invincible, il s'en éloigna avec horreur et s'appuya sur le bord de son lit. Ses yeux étaient rouges et ardents. Son regard, longtemps fixe, se voila peu à peu. Et succombant à la fatigue et à l'agitation de la veille, ses yeux se fermèrent. Il combattit d'abord le sommeil, puis il y céda. Alors elle, les yeux humides de larmes, attira doucement la tête de Kernok sur son sein, qui s'élevait et s'abaissait rapidement. Lui, se laissant aller à ce doux balancement, s'endormit tout à fait. Tandis que Mélie, retenant son haleine et écartant les cheveux noirs qui cachaient le large front de son amant, tantôt y déposait un léger baiser, tantôt passait un doigt effilé sur ses épais sourcils qui se contractaient convulsivement même pendant son sommeil. « Capitaine, nous sommes à pic !» dit Maître Zélie en entrant. En vain, Mélie lui fit signe de se taire, montrant Kernok endormi. Et Zélie, ne connaissant que l'ordre qu'il avait reçu, répéta d'une voix plus forte « Capitaine, nous sommes à pic !»« Hein ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce ? » dit Kernok en se dégageant des bras de la jeune fille. « L'encre de Babar est à pic !» répéta Zélie pour la troisième fois, avec une intonation plus élevée encore. « Et qui donc a donné cet ordre, maître Sceau ? Mais vous, capitaine ? Moi ? Mais vous, capitaine, en revenant à bord, il y a 2 heures ? Vrai comme voilà un chasse-marée qui borde sa trinquette !» dit Zélie avec un accent de conviction profonde, en montrant par la fenêtre un navire qui exécutait en effet cette manœuvre. Et Kernok jetait un regard sur Mélie, qui baissait en souriant sa jolie tête pour confirmer l'assertion de Zélie. Alors il passa rapidement la main sur son front et dit « Oui, c'est bien, dérapez, faites tout préparer pour l'appareillage. Je vais monter. La brise n'a pas molli ? Non, capitaine, au contraire, elle fraîchit beaucoup. Va, allez, dépêche-toi. » Le ton de Kernok était plus dur et impétueux, mais seulement brusque. Aussi Zélie, voyant que le calme avait succédé à l'agitation de son capitaine, ne put s'empêcher de prononcer un « mais... » Mais vas-tu recommencer tes mets et tes si ? Prends garde ou je te casse mon porte-voix sur la tête ! S'écria Kernok d'une voix de tonnerre en avançant sur Maître Zélie. Celui-ci s'esquiva promptement, jugeant bien que son capitaine n'était pas encore dans une situation d'esprit assez paisible pour supporter patiemment ses éternelles contradictions. Calmez-vous, Kernok, dit Mélie timidement. « Comment vous trouvez-vous maintenant ?»«
Eh bien, très bien. Cordieu, ces 2 heures de sommeil ont fini pour me calmer et chasser les idées sottes que cette maudite sorcière m'avait fourrées dans la tête. Allons, allons, la brise fraîchit, nous allons sortir du port. Aussi bien que faisons-nous là, tandis qu'il y a des 3 mâts dans la Manche, des galions dans le golfe de Gascogne, et de riches navires portugais dans le détroit de Gibraltar.
Comment vous partirez aujourd'hui, un vendredi ?
Écoute bien ce que je vais te dire, ma bien-aimée. J'aurais dû te châtier d'importance pour m'avoir décidé par tes supplications à aller entendre les rêveries d'une folle. Bon, je t'ai pardonné, mais elles n'auront pas davantage les oreilles de ton bavardage, sinon...
« Ces prédictions sont-elles donc sinistres ?»«
Ces prédictions, j'en fais cas comme de ça. »« C'est bon ce que je peux lui prédire, moi, la vieille chouette. Et tu verras si je me trompe. C'est qu'à ma première relâche à Pimpoule, j'irai avec une douzaine de gamiers lui rendre une visite dont elle se souviendra. Que la foudre m'écrase s'il reste une pierre dans sa cassine et si je ne lui rends pas le dos de la couleur de l'arc-en-ciel. Ne parlez pas ainsi d'une femme à seconde vue, par pitié. Ne parlez pas aujourd'hui. Tout à l'heure, un goéland noir et blanc voltigeait au-dessus du brick en poussant des cris aigus. C'est un mauvais présage, ne partez pas. » En disant ces mots, Mélie s'était jetée aux genoux de Kernok, qu'il avait d'abord écouté avec assez de patience. Mais lassé, il la repoussa si durement que la tête de Mélie rebondit sur le plancher. Au même instant, à une secousse violente que le navire éprouva, Kernok, devinant que l'ancre venait de céder au cabestan, s'élança sur le pont, son porte-voix à la main.